Donc on va commencer notre première leçon dans notre nouvelle série qui va être sur la doctrine de la sanctification biblique. Alors la leçon 1, ça va être la sanctification biblique, tout simplement, une introduction. Il y a un besoin d'introduire. J'ai regardé le livre que je me sers d'un petit livre du pasteur anglais J.C. Ryle. Et entre-temps, j'ai trouvé un autre livre, parce que le livre que je me sers, c'est comme un abrégé, c'est comme un résumé de ce gros livre-là. Et je l'ai trouvé sur Internet gratuitement. Si jamais ça vous intéresse, moi, j'ai lu là, juste l'introduction que je me sers ce soir. Là. Je peux vous dire une chose, J.C. Ryle, c'est tout un numéro. C'est vraiment un pasteur de tout premier ordre. Alors, je vous le conseille fortement. Si jamais vous avez le goût de le télécharger, ce que je vous suggérerais, si vous avez le goût de le faire, de télécharger puis suivre les leçons en même temps. Si vous auriez lu son écrit avant qu'on donne la leçon, je pense que ça serait doublement profitable. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'il dit dans son introduction qu'il y a énormément de confusion de nos jours, à son époque, et bien entendu, la plupart des commentaires ou des livres que j'ai lus sur le sujet disent exactement la même chose. Alors, ça n'a pas changé. Lui, c'est un gars qui a vécu au 19e siècle, mais au 20e et au 21e. Il y en a encore énormément. Mais comme on va voir, si on fait des erreurs dans la compréhension de la doctrine de la sanctification, et qu'on ne la distingue pas vraiment d'aplomb, comme on pourrait dire, avec la justification, ça peut amener des erreurs vraiment très graves en théologie. Alors, pour ça que la leçon, d'après le petit livre que je me sers, qui est Aspects of Holiness, lui donne 20 chapitres, alors à part de l'introduction. Donc, normalement, on devrait avoir 21 leçons. S'il calcule qu'on a besoin de 21 leçons pour étudier ça, c'est parce qu'il y a de quoi à regarder. OK. Alors, beaucoup de grands théologiens, pasteurs et théologiens chrétiens observent qu'il y a une grande confusion sur le sujet de la sanctification biblique et le besoin de la différencier de la doctrine de la justification. Quand j'utilise le mot « sanctification biblique », bien important parce que tous les enseignements sont tirés des Saintes Écritures et non pas des échafaudages de raisonnement humain. Bien important de le mentionner dès le départ. Alors, pour nous aider à voir clair sur le sujet, nous avons utilisé un ouvrage fort respecté dans les milieux réformés conservateurs chrétiens, celui de l'évêque J.C. Ryle, qui était un anglican du 19e siècle. Très influent, qui a beaucoup écrit. Alors, je me suis servi de deux choses. À la fois l'édition PDF, qui est complète sur Internet, qui est un petit peu plus développée, et l'autre, c'est un livre, c'est un abrégé. Donc, il y en a un qui a 347 pages, l'autre en a 150. Alors, on voit que c'est vraiment abrégé. Mais je veux utiliser les deux. Alors, je vais vous faire profiter des deux. Alors, le livre, si vous pouvez vous le procurer, je vous ai mis l'adresse, là. Son titre, c'est « Holiness, its nature, hindrances, difficulties and roots », 337 pages. Et l'édition papier abrégée a été réécrite pour condenser tout le contenu de cela. Lui, il y a 144 pages. Bien entendu, les deux sont en anglais seulement. Je regrette, mais j'aimerais beaucoup que ces deux livres-là seraient en français. Je pense que je serais un gros vendeur pour essayer de le distribuer au plus grand nombre. Alors ici, je vous ai mis l'adresse web où vous pourriez acheter le livre. Il n'est pas très cher, une quinzaine de dollars, et il vaut vraiment la peine. Alors, cet ouvrage-là, et plus particulièrement l'édition originale « Holiness, its nature, hindrances, difficulties and roots », est considéré par plusieurs érudits comme le meilleur livre jamais écrit sur le sujet de la marche chrétienne. Alors, c'est pas un petit compliment, ça, quand quelqu'un se fait dire une affaire pareille. Alors, je voulais vous donner quelques mots sur l'auteur J.C. Ryle. Alors ici, il a vécu de 1816 à 1900. Alors, John Charles Ryle fut le premier évêque anglican de Liverpool. Il fut aussi un auteur prolifique, un prédicateur passionné et un fidèle berger. Il était réputé être sans compromis avec la doctrine évangélique et solide dans ses principes bibliques. Le prince des prédicateurs anglais, Charles Spurgeon, avait une très haute opinion de lui. Spurgeon a dit de lui qu'il était le meilleur homme dans toute l'Église d'Angleterre. Plusieurs de ses écrits sont devenus des classiques. Il a toujours été considéré comme un champion et défenseur de la foi évangélique et réformée. Alors, c'est pas un petit compliment venant de Charles Spurgeon. Disons que le gars qui se fait dire ça, c'est un beau compliment. Et il y en a un autre que j'ai trouvé. C'était le fameux docteur et pasteur Martin Lloyd-Jones. Lui aussi, il l'estimait très hautement. Il a dit de son œuvre, « Holiness, its nature, hindrances, difficulties and roots », qu'il n'oubliera jamais la satisfaction à la fois spirituelle et intellectuelle que ce livre lui avait donnée. Il affirme que la méthode et le style de Ryle est particulièrement scripturaire et expositoire. Il ne part jamais d'une théorie qu'il essaie d'étoffer avec des versets. Il débute toujours avec la parole de Dieu qu'il expose avec intelligence et fidélité. Lloyd-Jones affirme que cet auteur a bu abondamment au puits de ses prédécesseurs protestants et des puritains. Il dit « Ces livres sont une distillation des meilleurs auteurs chrétiens disponibles à son époque. » Alors, il a la réputation d'être facilement lisible et hautement pratique. Lloyd-Jones en a fait une très chaleureuse recommandation. Et je peux vous le confirmer, il y a des fois que tu lis un livre en anglais, tu as de la misère à le suivre parce que l'anglais est un petit peu difficile. Mais Ryle, il y a vraiment un anglais, tu n'as pas besoin d'être un érudit là, pour être capable de comprendre. Je pense que j'ai trouvé un autre livre de lui dans ma bibliothèque que je me propose de lire. Il dit que selon lui, les principales caractéristiques qu'une prédication devrait avoir, c'est la simplicité. Et je vois que même dans ses écrits, il l'applique carrément. Et c'est vraiment agréable à suivre. Ça se lit très, très bien. Alors, la première chose qu'il fait dans son introduction, il veut parler de la sanctification biblique, bien entendu. Et il parle des 7 erreurs à éviter si on veut étudier ce sujet-là d'aplomb, comme on dit, et non pas s'en aller dans toutes sortes de directions. Alors, J.C. Ryle commence son livre en soulignant qu'il est de la plus haute importance d'asseoir solidement la doctrine sur des bases strictement bibliques. Il sent le besoin d'avertir du besoin d'équilibre et de bien examiner toutes les Écritures si l'on veut éviter de graves erreurs. Il nous rappelle que Satan connaît très bien le pouvoir de la vraie sainteté et de l'effet désastreux qu'une seule vie vraiment sanctifiée peut provoquer sur son propre royaume. C'est donc dans son intérêt de développer de la confusion et des controverses, ce qu'il a fait de tout temps sur le sujet. Regarde, justement, on parle de « New Perspective on Paul » actuellement, c'est aux États-Unis, là, c'est, tout le monde parle de ça, et c'est vraiment... la doctrine de la justification qu'on commence à vouloir mélanger avec la doctrine de la sanctification. On voit que c'est pas d'hier, ça existait à l'époque de Ryle, ça existe encore aujourd'hui, et Satan va faire en sorte que ça va durer jusqu'à la fin. C'est très important que notre esprit soit vraiment clair sur ces deux sujets-là, ces deux doctrines-là, c'est-à-dire. Alors, de la même manière que Satan a connu du succès en mystifiant et amenant de la confusion dans l'esprit des hommes sur la doctrine de la justification. Ainsi en est-il de nos jours encore, quand il travaille sans cesse à obscurcir les desseins de Dieu. Alors, j'ai voulu citer le verset qu'il utilise lui-même, Job 38, verset 2. « Qui est celui qui obscurcit mes plans, par des discours sans science. Alors, la première erreur qu'il dit qu'on se devrait faire très attention à éviter, c'est celle de divorcer la foi et les efforts du croyant. Nous savons que la foi en Christ est la racine de toute sanctification. Le premier pas vers une vie sainte est de croire en la personne et en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi qui nous permet de vaincre la chair, de vaincre le monde et de vaincre Satan. Cependant, les Saintes Écritures nous parlent aussi des efforts que doivent faire les chrétiens. Alors, quand on parle de divorcer, c'est qu'il y en a qui disent, bon, si tu as la foi, tu n'as pas d'affaire à t'occuper de ça, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Faut pas divorcer les deux, ils vont ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » On a aussi 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. « Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Juste une petite remarque en passant. Je ne peux pas vous donner tous les versets qu'il donne dans la version longue, ni même dans la version courte, parce que ça serait beaucoup trop long. Alors, je fais toujours un choix de les versets qui me semblent les plus appropriés, mais sont tous appropriés, mais question d'être pratique. Hébreux, chapitre 4, verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. » Hébreux, chapitre 12, verset 1, « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la vérité. » Et il y a le fameux passage de 2 Pierre, chapitre 3, et versets 3 à 10, dans la version seconde 1910. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science à la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On voit dans le verset 5, « Faites tous vos efforts. » Je me souviens d'avoir déjà lu dans une étude que j'avais faite sur ce passage-là. On parle des efforts de nature, d'une personne qui fait de l'olympisme, un athlète olympique. L'athlète olympique, on le sait, ceux qui font du plongeon, ceux qui font n'importe quoi, se lèvent à 4 heures du matin souvent, 5 heures du matin, ils font ça quasiment 365 jours par année. C'est dans, le mot grec, c'est ça qui est contenu dans le mot grec. Faites tous vos efforts. Sans... Alors, après ça, on a Jacques 2, 17. Et que quelqu'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela servirait-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu vois la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Il est scripturaire et vrai de dire que seule la foi justifie. Mais il est également scripturaire et vrai de dire que la foi produit de la sanctification. La deuxième erreur qu'il nous demande de faire attention, c'est d'ignorer les exhortations pratiques de la Bible pour la sanctification dans la vie quotidienne. Alors, aucun croyant bien enseigné ne contestera la nécessité d'une marche quotidienne avec le Seigneur, de développer une habitude de venir au Seigneur Jésus-Christ régulièrement dans la prière et la méditation. Le Nouveau Testament ne se contente pas de donner ses principes généraux, mais donne de très nombreux détails sur l'usage de nos langues, de nos caractères et de nos inclinations naturelles. Il commande des changements dans notre conduite comme parents, comme enfants, comme employeurs ou employés, comme mari, comme épouse, comme dirigeant et comme citoyen. Il nous dit comment se comporter dans la maladie, comme dans la santé, dans la pauvreté, comme dans la richesse, et tout ceci avec maints détails. La sanctification est beaucoup plus que des larmes et des soupirs, de l'excitation physique, d'un pouls accéléré, ou d'un attachement à un prédicateur ou à un groupe religieux. C'est être conforme à l'image de Jésus-Christ, tel qu'il nous est mentionné dans le 8e chapitre de Romains au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Cette sanctification est quelque chose d'observable par les autres dans le détail de nos caractères, de nos habitudes et de notre comportement au quotidien. Troisième erreur, enseigner l'absolue et complète sanctification durant la vie terrestre. Alors, on le sait qu'il y a eu des enseignants dans le passé, dont John Wesley, et d'autres, là, il n'est pas le seul, là, mais ils ont enseigné ça dans le passé, ce qu'ils appelaient, eux autres, « sinless perfection ». Alors, ils disaient qu'un chrétien peut tellement obéir qu'il ne pêche plus. Quelque part, il dit « faisons très attention à ne pas tomber dans ce piège-là ». Alors, il n'y a aucun doute que les Saintes Écritures nous commandent de viser la perfection. Entre la viser et l'atteindre, il y a une marge. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. « Au reste, frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. » Cependant, il n'y a aucun passage dans la Bible qui suggère que le croyant peut atteindre une complète et entière libération du péché durant notre vie terrestre. Il faut ajouter que cet idéal n'a jamais été atteint par aucun croyant dans toute l'histoire. La Bible nous enseigne plutôt que plus le croyant grandit dans la connaissance et dans la grâce, plus il se revêt d'humilité. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 5 et les versets 6. « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main, puis sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. » Les grands saints de l'histoire biblique, David, Paul, Jean, étaient conscients de leur faiblesse et de la présence du péché dans leur cœur et dans leur vie. Nous devons affirmer sans hésitation que ceux qui prétendent une telle chose connaissent très peu la nature du péché et très peu la sainteté de Dieu. Nous protestons contre cet enseignement hérétique à cause de la dangereuse illusion qu'elle véhicule. C'est un enseignement qui peut amener des croyants à la dépression, bien entendu, parce qu'ils voient qu'ils ne l'atteignent jamais, ou les emmener à l'orgueil en croyant qu'ils l'ont atteint, lorsqu'ils sont amenés à croire ce qu'ils ne sont pas en réalité. Quatrième erreur, croire que le chapitre 7 de Romains enseigne l'expérience d'un irrégénéré et non d'un véritable croyant. Alors, si vous lisez Romains chapitre 7, si vous lisez 100 commentaires sur Romains, il va y en avoir une partie qui vont dire « Ah, ça, c'est l'expérience d'un homme non converti. » Il y en a d'autres qui vont dire « C'est l'expérience d'un homme converti. » Les milieux réformés et puritains de tout temps ont toujours dit que c'était un homme converti pour une multitude de raisons. On ne peut pas rentrer dans les détails de ça ce soir, mais quand même, si on interprète mal Romains 7, c'est sûr que ça va avoir des répercussions ailleurs. Alors, ce chapitre de l'Épître aux Romains, Romains 7, a toujours été l'objet d'une controverse théologique. Nous devons préciser qu'historiquement, tous les commentateurs de la Réforme, des puritains et de beaucoup d'autres érudits des Saintes Écritures sont d'accord pour voir dans ce chapitre l'expérience d'un croyant. Nous devons aussi savoir que les catholiques, les sociniens et les arméniens croient qu'il s'agit plutôt de l'expérience d'un homme pas encore sauvé. Ça parle. Cinquième erreur, mal comprendre l'expression « Christ en nous ». Sans aucun doute, l'expression « Christ en nous » est biblique, Romains chapitre 8, verset 10. « Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. » Galates chapitre 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Éphésiens chapitre 3, verset 17. « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Colossiens chapitre 3, verset 11. « Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Certains ont enseigné que cette vérité signifie que le croyant n'est pas responsable pour ce qu'il fait, parce que c'est Christ qui fait tout en eux. Cet enseignement ne peut pas être vrai. Affirmer une telle chose, c'est ignorer le fait que la présence de Christ dans le croyant se fait par la présence du Saint-Esprit en eux. Christ, comme notre souverain sacrificateur ressuscité, est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour eux. C'est le Saint-Esprit qui est le Consolateur qui restera avec nous pour toujours. Jean chapitre 14, verset 16. « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre Consolateur pour demeurer éternellement avec vous. » Pourquoi le Christ aurait besoin d'intercéder si le Seigneur, le Christ vit en nous? Alors, ce n'est pas la signification que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'à cause que Christ vit en nous, que ça va nous donner la capacité de vivre sans péché. Alors, il faut faire attention de regarder toujours le contexte immédiat, ce qui a été dit avant, ce qui a été dit après, et aussi, avec l'analogie des Écritures, de tenir compte de ce qui a été dit dans d'autres passages, dans d'autres chapitres, dans d'autres livres des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre spéciale de pousser, de provoquer les croyants à l'ardent désir de la sanctification. Je trouve ça une expression très difficile à traduire. Je l'ai traduit par « pousser, provoquer les croyants à l'ardent désir de la sanctification ». Mais en anglais, c'est « urging us on » in sanctification. Urging, ça veut dire to hurry up. Il pousse, il provoque, c'est lui qui veut qu'on change. Alors, n'oublions jamais qu'une vérité tordue peut être le point de départ de dangereuses hérésies. Sixième erreur, et ça, c'est vraiment là, un problème caractéristique du 20e siècle. Divorcer la conversion de la consécration. Il existe des personnes qui enseignent qu'il y a deux sortes de chrétiens, les convertis et ceux qui vivent une vie supérieure. En anglais, ils appellent ça « a higher life », de complète et entière consécration. Ils suggèrent qu'il y a des sauts soudains et instantanés pour passer de la conversion à la consécration, comme si le croyant avait besoin d'une deuxième conversion. Alors, le « have your life », c'est comme ils disent, le gars est converti, mais il arrive un moment dans sa vie où là, il y a comme une deuxième... C'est comme s'il y avait une deuxième conversion, « a higher life ». Alors ça, au 20e siècle, ça a été beaucoup enseigné, ça. Alors, nous constatons avec tristesse que ceux qui utilisent un tel langage ont une vision très pauvre de ce qu'est la véritable conversion. Excusez-moi. La seule distinction donnée par la Bible est celle entre les convertis et les inconvertis ou irrégénérés, entre ceux qui sont spirituellement vivants et ceux qui sont spirituellement morts. Il y a deux catégories, ou tu es mort ou tu es vivant, ou tu es régénéré ou tu es irrégénéré. À l'intérieur de ces deux groupes, il existe certainement des degrés dans le péché et dans la grâce. Autrement dit, quand des personnes sont converties, il y en a qui vont avoir de la grâce plus parce qu'ils utilisent des moyens de grâce plus. Alors, c'est une question de degré, mais normalement, c'est pas... il y a une catégorie de chrétiens que eux, c'est des higher life, puis les autres, c'est des low life. C'est pas le même, ça marche. Si on a le Saint-Esprit, on l'a tous, mais acceptez que, comme on dit, il y a des degrés dans le péché et également dans la grâce. Pour le croyant, il se doit d'avoir une croissance continuelle en grâce, croissance continuelle en connaissance, croissance continuelle dans l'appréciation des choses spirituelles. Autrement dit, il y a une croissance. Croissance, ça veut dire que quand on prend un enfant qui est bébé, il mesure un pied et demi, puis quand il peut être un 6 pieds 3, comme 6 pieds 4, comme une personne que je vois devant moi. Là. Alors, il y a eu croissance. C'est venu par petits morceaux, par petits morceaux. Dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Il y a une croissance. Il faut qu'il y en ait une, parce que c'est ça qui démontre qu'on est des véritables chrétiens. Pour le croyant, il se doit d'y avoir une croissance spirituelle en grâce, en connaissance et dans l'appréciation des choses spirituelles. Nous sommes persuadés qu'une personne ne peut pas être convertie si elle n'est pas aussi consacrée au Seigneur. Nous reconnaissons cependant qu'il peut y avoir des degrés et de la croissance dans la consécration, dans la mesure où la grâce de Dieu grandit en eux, et j'ajouterais dans la mesure où l'utilisation des moyens de grâce est utilisée par les croyants. Alors nous affirmons que de suggérer qu'une personne peut expérimenter la nouvelle naissance et ne pas être consacrée démontre une très pauvre compréhension de ce que la véritable conversion signifie. Et la septième erreur, enseigner que les croyants n'ont pas à lutter contre le péché, mais qu'ils doivent seulement se donner à Dieu. Alors l'expression « donnez-vous à Dieu » est mentionnée dans la Bible. Romains 6, 13, « Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts, étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. » Dans ce verset, il est commandé aux croyants de se donner à Dieu. Cependant, le mot « donnez-vous », en anglais c'est « yield », n'a pas le sens de se placer passivement dans les mains d'une autre personne. L'expression véhicule davantage le sens de se présenter activement à une autre personne pour être utilisé par elle. Oui, c'est très différent. Si tu te places dans les mains de Dieu puis que tu veux activement faire ce qu'il te demande de faire, pas la même chose que de dire, ben moi, c'est pas ma job, c'est lui qui sanctifie puis je me laisse faire. Pas la même chose du tout, du tout, du tout. Alors, il existe plus d'une trentaine d'autres passages dans la Bible qui enseignent que le croyant ne doit pas demeurer inactif et passif, mais qu'il doit se lever et de se mettre au travail. Les Saintes Écritures nous parlent de la vie chrétienne comme d'une guerre, comme d'un combat, comme d'une vie de soldat, comme une lutte. Pourquoi devrions-nous se revêtir de toute l'armure de Dieu s'il n'en est pas ainsi? Alors, les personnes sont portées à confondre deux choses complètement différentes, même s'il y a un lien entre les deux, la justification et la sanctification. Dans la justification, nous devons seulement croire et seulement croire. Dans la sanctification, nous devons veiller, prier, combattre et faire des efforts. Il est déplorable de constater qu'il existe un tel niveau d'ignorance des Écritures chez les chrétiens. Il y a également un goût pour la nouveauté. Des milliers accourront pour entendre une nouvelle voix, une nouvelle doctrine, sans considérer si ce qu'ils entendent est vrai et scripturaire. Il existe une fascination pour les foules, pour un appel constant aux émotions et aux expériences spectaculaires. Il semble que le mot d'ordre est « En autant que le prédicateur est habile et sincère, les foules croient que cela doit être vrai. » L'authenticité de notre foi se manifeste par notre sanctification. Que le Seigneur nous donne la capacité de distinguer les choses qui diffèrent entre elles et de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, « Si tu reviens, je te ramènerai, tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche, ils se tourneront vers toi, et tu ne te tourneras pas vers eux. » Alors j'ai fait un petit tableau, et j'ai pris lui-même dans son livre, dans l'abrégé, il fait deux définitions. Je les ai mis côte à côte, parce que des fois, le fait de les mettre côte à côte, ça nous aide à comprendre. Je les ai mis d'abord en anglais, et je vous les ai traduits en bas, autant que je pense que ma traduction est correcte, là, mais je ne suis pas un traducteur professionnel. Alors, si on les compare les deux en anglais, c'est « To justify a person is to declare that person to be righteous. It is a forensic word, that is, connected with law courts. A judge justifies a person, declaring that person to be in the right. God justifies believers on the basis of what Jesus Christ has done for his people. » Ça, ça vient d'un dictionnaire théologique. Et pour vous traduire la justification d'après le dictionnaire, justifier une personne, c'est déclarer cette personne d'être juste. C'est un mot judiciaire, en rapport avec les cours de justice. Un juge justifie une personne en déclarant que cette personne est juste. Dieu justifie les croyants sur la base de ce que Jésus-Christ a accompli pour son peuple. Ce que je vais faire... En 1995, je m'en souviens encore, j'étais à l'école biblique, j'étais allé suivre le cours sur Romains. Et le professeur, il avait mis quelque chose comme 12 à 15 livres sur une table en avant, puis il avait dit, je mets ça à votre disposition, vous en servirez comme vous voudrez. Moi, la première fois que j'ai compris la différence correctement entre sanctification et justification, c'est un livre que j'ai à la maison, et que quand j'avais fait mon cours, il y avait un tableau là-dedans, un genre de diagramme. J'ai ouvert le livre, j'ai regardé ça, et là, ça a fait « Ah! » C'est comme « Et la lumière fut. » Et là, j'ai vraiment tout compris d'un coup sec. Parce que j'étais là, demandé au professeur « Qu'est-ce que vous voulez dire par la justice infusée? Qu'est-ce que vous voulez dire par la justice imputée? » Puis tu sais, moi, je suis un francophone, lui est un anglophone. Imputed righteousness, puis infused righteousness, il essayait de me faire comprendre la différence entre les deux. Je ne comprenais absolument rien. J'étais là, ça restait les deux yeux fermés, je ne comprenais rien. Mais à un moment donné, il faut faire la différence. Les tableaux, je les ai, je vais les reproduire, je vais vous les emmener, on va les étudier ensemble. Parce que si ça vous fait le même effet que ça me fait à moi, je peux vous dire une chose, c'est éclairant à un point qu'après on ne confond plus jamais les deux choses. Maintenant, la sanctification. On voulait comparer les deux définitions de mots. Sanctification is that basic work of God's Holy Spirit in believers, by which He makes believers increasingly holy, set apart for God. The work is never completed in this life, but will be complete in heaven. Alors, je traduis. Ça aussi, ça vient de A Dictionary of Theological Terms, publié par Grace Publication Trust. Alors, la traduction. La sanctification, c'est l'œuvre de base du Saint-Esprit dans les croyants, par laquelle il rend saint, mis à part pour Dieu, progressivement. Mais cette œuvre n'est jamais complétée définitivement durant cette vie terrestre, mais elle sera complétée au ciel. Je pense que l'une des choses qui amène la confusion, c'est que dans les prédications, on a souvent utilisé les expressions « la sanctification positionnelle » et « la sanctification progressive ». Si tu as vraiment compris la différence entre justification, tu vas dire « ok, c'est correct ». Mais si tu ne comprends pas, « positionnelle », c'est la justification. Autrement dit, devant Dieu, pourquoi Dieu parle d'un croyant dans le Nouveau Testament, puis il dit d'eux qu'ils sont saints? Parce qu'ils croient que Jésus-Christ a fait l'œuvre. Il n'y a pas un dimanche, je pense que je ne dis pas. La fameuse obéissance passive et obéissance active. Autrement dit, parce que Christ a obéi à la loi à ta place, parce que Christ a payé ta punition, la punition qui aurait dû être la tienne à ta place, ça c'est la justification. On obtient ça par grâce, on obtient ça par la... Tout est basé sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, la justification. Tandis que la sanctification, la différence, c'est qu'on a un rôle à jouer dedans. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais comme on a vu tantôt, on ne peut pas dissocier la foi des efforts du chrétien pour demeurer dans la sanctification, pour essayer de s'améliorer. Et quand on a fait la différence entre les deux, c'est vraiment éclairant. En théologie, là, c'était... Alors, si par la providence de Dieu, les auditeurs de ce sermon téléchargent les notes de sermon, nous invitons ces derniers à lire le document suivant, disponible en ligne à l'adresse ci-dessous. Je vais vous l'amener la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, ce qu'on va faire, au lieu de faire la leçon 1, on va prendre le document qui a été fait par cette association-là. Là, c'est Christian Apologetics and Research Ministry. Ils ont publié un document en français. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Wow, là, il faut que je télécharge ça. » Fait que je l'ai téléchargé et c'est très, très... Ben, je l'avais lu en anglais, mais là, je me suis dit « Hey, 4 pages, traduire ça, quel ouvrage. » C'est beaucoup de travail de traduire ça. Là, pour garder le... Mais je me suis dit... D'un coup, j'ai vu français, disponible en français. Fait que là, j'ai cliqué dessus. La semaine prochaine, on va étudier le tableau que je vous ai parlé. Dans le tableau, il y a deux choses. Il y a le tableau qu'il y avait dans le livre. Et moi, à cette époque-là, j'étais comptable. Et j'ai compris que le mot « imputation » veut dire « mettre sur le compte de ». Donc, c'est comme si moi, j'ai un compte avec Dieu, je suis plein de dettes, puis c'est comme si Christ a un compte, puis il transfère son compte sur le mien. Et quand j'ai vraiment saisi ça, ça a été vraiment... Je voudrais que non seulement toute l'Église ici comprenne, mais que le plus de monde possible comprenne. Alors, je vous ai mis l'adresse. Le nom du document, c'est « Justification et sanctification, quelle différence » au pluriel, de Matt Slick, qui est le président et fondateur du site web Christian Apologetics and Research Ministry. Alors, je vous emmènerai le document la semaine prochaine à imprimer. On le lira ensemble avec le diagramme. Et je pense que ça devrait allumer. Si ce n'est pas déjà allumé, puis si c'est allumé, mais ça devrait renforcer votre compréhension. Alors, j'ai mis trois applications. La première, c'est notre devoir comme chrétien de bien différencier la justification de la sanctification et que le tout est d'une importance capitale afin d'éviter et de rejeter les nombreux faux enseignements sur le sujet qui ont jalonné l'histoire de l'Église et qui continuent de la corrompre. Tout à l'heure, on parlait de New Perspective on Paul et bien d'autres. Si on ne fait pas attention, les chrétiens américains sont en train de se laisser glisser encore vers ces erreurs-là. Alors, il faut vraiment que ça soit clair dans notre esprit. La deuxième application, n'oublions jamais les sévères avertissements que nous donne la Bible dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, recherchez la sanctification. Là, on ne parle pas de la sanctification positionnelle. On parle de la sanctification progressive. Parce que la sanctification positionnelle, on ne peut pas la rechercher, on la reçoit par grâce. Alors ici, c'est clair dans le verset, on parle de sanctification progressive. Donc, les Écritures nous commandent de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est vraiment très sévère, comme moi je trouve que c'est un verset qui fait réfléchir pas à peu près. Là. Alors, s'il n'y en a pas de sanctification dans la vie de quelqu'un, tu peux te poser des questions. Troisième application, prions ardemment le Seigneur de nous donner un plus grand désir de nous sanctifier pour sa plus grande gloire. Que sa glorieuse et très sainte personne soit bénie, louée et exaltée éternellement.